9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, une révolution citoyenne s'est-elle vraiment mise en marche ? Le gilet jaune, Éric Drouet, est-il l'héritier du Drouet qui a fait arrêter Louis XVI lors de sa fuite à Varennes ? Il faut prendre au sérieux le dernier texte de Jean-Luc Mélenchon qui se dit fasciné par Drouet et lui dit merci. Les insoumis ont-ils ainsi quitté les rives de la gauche, comme le dit Benoît Hamon ? Que veulent-ils ? Quel débouché politique espère-t-il ? Le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, sera mon premier invité dans un instant. À prendre au sérieux aussi, Michel Houellebecq, à nouveau en librairie depuis hier, avec ses visions ou ses prophéties souvent troublantes.
Il y a quand même un réel mépris dans ce pays pour l'ensemble des pouvoirs. Les hommes politiques sont vraiment méprisés, les juges sont méprisés, les journalistes sont méprisés. À ce niveau-là, ça devient alarmant quand même.
Ça, c'était il y a 4 ans pour la sortie de Soumission. Que nous dit-il dans Sérotonine ? Est-ce un bon livre ? Avec nous pour en débattre, le professeur de littérature Antoine Compagnon et le patron du monde des livres, Jean Birnbaum. Toujours au rayon politique, Houellebecq a dit aussi cela.
Démocratie, pour moi, c'est quand les propositions de loi viennent de la population, donc la pétition, et sont adoptées ou refusées par l'ensemble de la population, donc par référendum. Sinon, c'est pas une démocratie, c'est même pas une parodie de démocratie, c'est... À mon avis, même la vraie vocation de l'Europe, c'est de rendre impossible toute démocratie et installer définitivement le gouvernement des experts.
L'Europe, justement, c'était cette semaine le 20e anniversaire de l'euro, la monnaie européenne. Le journaliste Jean Quatremer publie « Il faut achever l'euro ». Par achever, veut-il dire, pour le rendre plus démocratique, le soumettre au contrôle des citoyens. Invité également Jean-Pierre Filiu, le professeur spécialiste du Proche-Orient, qui signe main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste. Livre important qui nous éclaire à 3 mois d'élections anticipées capitales en Israël.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Éric Coquerel.
Bonjour.
Plaisir, bonheur, gratitude, approbation, fascination, voilà les mots de Jean-Luc Mélenchon pour les Gilets jaunes dans son dernier billet de l'année. Expliquez-nous cette exaltation que vous partagez peut-être d'ailleurs.
Oui, oui.
Vous la partagez ?
Oui, absolument. Oui, j'ai lu la note de blog et j'invite d'ailleurs vous, les auditeurs qui nous écoutent maintenant, à aller la lire après. Comme ça, ils auront une exacte...
Qui s'appelle « Merci, monsieur voilà. Drouet ». Et il y a une nouvelle note qui a été voilà. publiée.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, nous, on pense que nous vivons dans le monde des processus de révolution citoyenne. Alors, une révolution citoyenne, c'est quoi ? C'est le fait que le peuple, j'allais dire, se met en mouvement et d'une manière majoritaire, notamment par les urnes dans un pays comme démocratique, mais dans lesquels les mouvements sociaux ont leur rôle évident, transforme radicalement les choses et dégage un peu le système libéral et le monde de l'argent que nous connaissons aujourd'hui. Bon, ça a eu lieu en Tunisie, ça a eu lieu en Amérique latine. Et nous considérons que ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes en France, c'est un début de processus. Alors, on ne sait pas combien de temps il va durer, sur combien de temps il va s'étendre, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui emporte la marque. C'est quoi cette marque ? C'est à un moment donné l'idée que face à l'oligarchie, face au monde de l'argent, de la finance, qui n'a jamais concentré autant de richesses dans le monde. Vous regardez toutes les courbes d'inégalité, c'est absolument effrayant depuis 30 ans. Eh bien, le peuple doit être fédéré justement sur des valeurs, qui sont des valeurs de partage des richesses, de démocratie, de revendications, y compris portées sur la question de l'écologie. Et c'est exactement ce qui se passe avec les Gilets jaunes, à partir d'une revendication très simple au départ, qui est sur la cherté de la vie. Donc oui, ça nous satisfait pleinement. Nous, on est révolutionnaires dans ce sens-là, qu'on pourrait considérer qu'évidemment, dès lors qu'on voit le peuple se mettre en mouvement, pour nous, c'est quelque chose de satisfaisant.
Pleinement satisfait, Éric Coquerel, sans aucune réserve, aucune nuance ou désapprobation, vous n'avez rien lu, vu ou entendu d'inacceptable ces dernières semaines ?
Bien sûr que aussi. Il y a eu des choses inacceptables.
Mais pourquoi ne pas le condamner clairement ?
Mais parce que vous ne lisez pas.
Je crois.
Je ne crois pas, vous ne lisez pas, sinon vous l'auriez vu. Bien évidemment, prenons par exemple les 15 Olibrius qui font une quenelle antisémite sur les marches de Montmartre. Nous condamnons. Ce que par contre nous disons, c'est qu'il y a une utilisation des images. Quand on choisit sur des chaînes d'infos continues de passer en permanence ces images comme si c'était la seule réaction ce jour-là qui avait eu lieu dans les rues de Paris, alors que le matin même, à Montmartre, au même endroit, il y avait cette fois-ci des centaines de personnes qui chantaient le vrai chant des partisans ou qui chantaient le chant de la commune. Je dis que là, il y a un choix qui est finalement de calomnier et de caricaturer ce mouvement.
Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Au tout début, c'est Mélenchon lui-même qui disait « Attention, Il y a des fachos chez les Gilets jaunes, les syndicats CGT et Solidaires nous ont alertés. C'était en meeting à Lille.
Mais il y a des fachos chez les Gilets jaunes.
Ils sont toujours là, les fachos.
Vous avez remarqué, est-ce que vous pensez très franchement que quand vous avez un mouvement, une grève dans une usine par exemple, que nous soutenons, est-ce que nous allons voir qui a voté et qui fait quoi dans cette grève sur des conditions d'emploi, bien évidemment, que nous appelons à la grève, nous soutenons la grève. Nous n'allons pas regarder dans tel détail qu'est-ce qu'a fait telle ou telle personne. Donc là, le mouvement, c'est pareil. Bon, à la différence près, c'est que, j'allais dire, qu'il représente toute la diversité aujourd'hui d'un pays dans lequel il y a eu beaucoup de contradictions. On parle sans arrêt de droite et gauche, on va y venir. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'après une trentaine d'années où finalement la gauche, je parle du Parti Socialiste, et la droite ont fait peu ou prou la même politique libérale, est-ce que vous ne croyez pas que ça perturbe tellement les repères qu'il est difficile pour des gens qui se mettent en mouvement, là, pour le coup, contre le libéralisme, en rupture avec ce monde-là, bah de dire « Ah oui, je suis de gauche comme M. Hollande, etc. » ou comme M. Macron, qui était ministre des Finances de M. Hollande.
Donc, les vous frontières bien que politiques sont en train de bouger.
Au niveau du vocabulaire, c'est clair. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les valeurs et vers quoi va le mouvement des Gilets jaunes. Si vous regardez quels sont son processus. Oui. Par exemple, on avait mis... Vous me parlez de réaction raciste. Rappelez-vous, le premier week-end, on avait mis en exergue que, par exemple, des personnes, conducteurs noirs avaient été arrêtés et voire molestés.
Dans le nord de la France.
Voilà, vous rappelez de ça.
Dans une citerne.
Ça,
qui était caché dans
plus
une
jamais, ça n'a plus jamais recommencé. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que ce mouvement, il a progressé considérablement vers des valeurs émancipatrices, celles du partage des richesses, celles de la remise en question des taxes injustes fiscalement, et puis même celles de la démocratie avec le référendum
dirigé
citoyenne.
Pour l'essentiel contre le gouvernement et contre l'État. Vous parliez de grève dans les usines tout à l'heure. Comment expliquez-vous qu'aucune revendication ne soit adressée au patronat, au chef d'entreprise, qu'aucun jour de grève nulle part n'ait été observé? Est-ce que ça en fait un mouvement social?
Mais c'est un mouvement social, incontestablement. Quand vous mettez en question la vie chère,
l'absence de revendications adressées au patron.
Mais vous trompez. Quand dans les revendications, il y a l'augmentation du SMIC, c'est une des revendications les plus importantes, d'accord ? Ou le rétablissement de l'ISF, c'est-à-dire le rétablissement de l'ISF sur les dividendes. Oui. C'est celui-ci qui a
le gouvernement qui fixe les salaires, Éric Coquerel.
Ah, le SMIC, excusez-moi, c'est le gouvernement.
SMIC, oui.
Donc
mais
ce mouvement est intelligent, parce que pour l'instant, il s'adresse au gouvernement et il lui dit augmenter le SMIC, c'est la seule décision que peut prendre le gouvernement par rapport au salaire. Donc il y a un certain nombre de revendications. D'ailleurs, nous, on a le plaisir de voir que une grande partie d'entre elles étaient également dans le programme L'Avenir en commun défendu par Jean-Luc Mélenchon, qui sont évidemment salariales. Maintenant, je vais vous dire, je pense très franchement qu'à un moment donné, alors j'ai vu les appels, notamment juste avant le départ en vacances, j'espère que ça va continuer, de la CGT qui dit maintenant qu'il faudrait des grèves, etc. Donc ça me satisfait. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'aurais trouvé utile que, par exemple, quand les raffineries sont occupées par les Gilets jaunes, il y ait des appels à la grève. Parce que là, pour le coup, c'était permettre justement que le mouvement syndical embraye dans la brèche ouverte par les Gilets jaunes. C'est pas trop tard, les syndicats l'ont fait. Et je pense que ça pourrait augurer un bon mois de janvier, notamment pour remettre en question tout ce qui a été annoncé sur les chômeurs, qui est absolument scandaleux.
Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis, on marque une pause et je vous demanderai ce que vous espérez pour 2019. Où cela va-t-il nous mener ?
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Avec Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis, compagnon de Jean-Luc Mélenchon depuis le parti de gauche. Jean-Luc Mélenchon à qui on demandait en septembre 2017, c'était sur RMC face à Jean-Jacques Bourdin, s'il voulait faire tomber Emmanuel Macron.
Nous voulons empêcher M. Macron d'aller au bout de la politique.
De son mandat.
Non, de son mandat, plaisantez pas. S'il veut s'en aller, c'est son affaire. Mais faire tomber sa politique, ça c'est clair. Mais s'il y a des élections, vous ne me voyez pas avec un bâton aller à l'Élysée.
Non,
mais dans la rue. Mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous nous voyez aller en manifestation pour dire on va renverser le président et sortir de l'Élysée?
Non, jamais.
Ça n'a pas de sens. Nous sommes, moi je crois aux élections, non?
Je crois aux élections. Rien à retirer à ces propos d'il y a un an et demi, Éric Coquerel. Donc vous croyez toujours aux élections?
Bien sûr. Vous êtes au courant qu'on est un parti républicain.
Et pas une insurrection populaire qui chasserait le président de l'Élysée.
Mais ça n'est pas contradictoire. Vous pouvez avoir...
Ah bon?
Mais non, rappelez-vous par exemple, novembre-décembre 95, d'accord? Les grands mouvements sociaux qui ont eu lieu, partie de des cheminots. C'était un très grand mouvement. Comment s'est-il terminé? Par des élections anticipées?
Un an et demi plus tard.
Si vous pensez qu'il n'y a pas un lien entre les deux, vous vous trompez. Donc il y a bien à un moment donné une colère qui s'exprime, quelque chose qui est de l'ordre insurrectionnel. Et effectivement, je pense que pour trancher, c'est par les urnes dans un pays comme les nôtres qu'on finit par trancher. Que ça soit sous forme de référendum, que ça soit sous forme d'élections intermédiaires qui indiquent un message au chef de l'État, qui, par exemple, contraindrait à dissoudre. Mais bien sûr que c'est par les élections, par le recours au peuple, au suffrage universel, qu'on doit trancher au final.
Et vous êtes toujours républicain et légaliste, Éric Coquerel.
Oui, légaliste, à partir du moment où aussi la loi est juste. Et pour l'instant, le problème, c'est pour ça que nous la contestons, c'est que la loi est de plus en plus injuste, notamment parce qu'elle est faite en faveur des plus privilégiés, comme jamais elle n'a été sous la Ve République depuis qu'Emmanuel Macron est élu. Et c'est aussi très certainement, par rapport aux propos de Jean-Luc Mélenchon que vous portez, ce qui radicalise la situation. Les propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant, c'était tout au début du mandat de
oui, en septembre 2017.
Depuis, ça a été 9 milliards chaque année de cadeaux aux plus riches, alors qu'on a pris à tous les Français pour justement faire payer cette politique. Donc, inévitablement, je peux vous dire une chose, c'est que la tension dans le pays, n'a fait qu'augmenter, et c'est la responsabilité de M. Macron, jusqu'à entendre beaucoup de gilets jaunes, maintenant demander également sa démission. Ça, on est bien forcé de l'entendre.
Éric Coquerel, légaliste et républicain, que pensez-vous ? Est-ce que vous trouvez que les moyens utilisés par les gilets jaunes, et notamment par Éric Drouet, j'y reviens, sont les bons ? Les rassemblements surprises dans Paris sous forme d'action commando, vous trouvez ça efficace ?
Oui, parce que légaliste et républicain n'empêchent pas d'être aussi pour une révolution citoyenne. Ce n'est pas contradictoire, on peut faire une révolution citoyenne par les urnes. Mais c'est clair qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas ce genre de mouvement si vous n'avez pas en même temps des mobilisations fortes. Et je pense que ce qui s'est passé tout le mois de novembre et décembre et qui va continuer en janvier, ne croyez pas que le mouvement va s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'il y a une répression accrue, là j'entendais sur les ronds-points, que la police menace d'intervenir partout, que le mouvement va cesser. Oui. Bien au contraire.
Enfin, il y a quelques milliers de personnes mobilisées dans toute la France
Eh bien vous verrez, on fera le bilan à la fin janvier pour voir ce qui s'est passé. Parce que moi, mon sentiment au contraire, c'est que non seulement cette répression va multiplier les mouvements des gilets jaunes, il y a un lien social fort chez les gilets jaunes. Je ne sais pas si vous êtes au courant sur les ronds-points, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent, qui ont le bonheur de se retrouver, qui se mobilisent, qui pensent que ça avance, ils ont déjà gagné sur un point. Et en plus de ça, je pense qu'il y a d'autres gens qui vont rentrer dans la brèche ouverte par eux.
Malgré les sondages qui propulsent Marine Le Pen et le Rassemblement National, est-ce que vous pensez que le vent souffle dans votre sens aux Insoumis, Éric Coquerel ?
Déjà, pour l'instant, il souffle dans le sens de ce que nous souhaitons en termes pour bloquer la politique d'Emmanuel Macron. Et ça, déjà, on s'est satisfait. Vous savez, nous, on n'a pas seulement un esprit boutiquier. On ne regarde pas le mouvement des gilets jaunes en regardant les sondages d'après, en se disant...
Mais votre objectif, c'est bien de gouverner, d'arriver au pouvoir.
Oui, mais là, pour l'instant, pour arriver à gouverner un jour, il faut qu'il y ait un mouvement populaire. Ouais. D'accord ? Je ne crois pas au fait qu'un mouvement comme France Insoumise parviennent à gouverner ce pays un jour s'il n'y a pas justement de mobilisation sociale et qui gagne. Donc la satisfaction, c'est que cette mobilisation sociale-là, à l'inverse, malheureusement, d'autres qui ont eu lieu précédemment, elle a gagné et elle ouvre la voie. À partir de là, oui, je crois que ça peut nous être favorable parce qu'on est totalement, nous, en adéquation avec ce que porte ce mouvement en termes de contenu revendicatif à 90%, mais aussi, j'allais dire, du fait que justement, c'est le peuple qui se fédère, le peuple qui s'unit et qui porte des valeurs de plus en plus émancipatrices. Et je crois que ça tournera plutôt à un moment donné vers ça, c'est-à-dire vers une issue de transformation radicale, progressive, sur le partage des richesses, la planification écologique, etc., plutôt que sur le repli sur soi, la xénophobie et la division que porte le Front National.
Ce mouvement vous pousse vers cet objectif, vous accélère votre marche vers le pouvoir.
Oui, en tout cas, ça va dans le bon sens. Oui.
Merci Éric Coquerel d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, il faut achever l'euro, nous dit Jean Quatremer, le spécialiste des questions européennes à Libération, pour les 20 ans de la monnaie commune, transformer la zone euro, dit-il, sous peine de la faire mourir. A tout de suite. Cette semaine, le 1er janvier, l'euro a fêté ses 20 ans. 1er janvier 1999, l'euro devenait la monnaie commune de 11 États européens, avant, 3 ans plus tard, de devenir monnaie unique avec mise en circulation des pièces. Aujourd'hui, l'euro est la deuxième monnaie mondiale, mais toujours loin du dollar américain. Elle est appréciée par les deux tiers des Européens, mais seulement 60% des Français qui considèrent que c'est une bonne chose. Il y a toujours un tiers de citoyens français favorables à une sortie de l'euro. Sondage Ipsos pour Le Monde publié à la mi-décembre. Alors l'euro tel qu'il est-il une monnaie durable. Bonjour Jean Quatremer.
Bonjour.
La naissance de l'euro, sa construction, ses crises, vous avez vécu tout cela aux premières loges. Journaliste à Libération, vous suivez les questions européennes depuis 1990. Et vous qui avez souvent été accusé d'être europhile à tout crin ou eurobéa, vous publiez chez Calman Lévy, il faut achever l'euro. En réalité, ce que vous dites, c'est il faut parachever l'euro. Mais vous pensez vraiment que l'euro est mortel ?
l'euro est mortel, comme toute réalisation humaine. Je veux dire, croire que quelque chose est immortel, c'est un peu comme les gens qui seront indispensables. Vous savez, nul n'est indispensable, l'euro n'est pas immortel, et il peut périr. Il peut périr non pas à cause d'un échec technique, parce qu'il a montré qu'il était solide, mais il peut périr parce que par désamour. La monnaie, c'est important parce que c'est l'expression de ce qu'est un État. Et si on ne l'aime pas, cette monnaie, eh bien, elle peut s'effondrer dans l'indifférence des citoyens.
D'où
c'est
l'importance
vrai
des sondages que je citais tout à l'heure.
C'est fondamental.
Au début de votre livre, vous moquez des prophètes de malheur qui, au plus fort de la crise, début 2011, prédisaient que l'euro ne passerait pas le prochain hiver, mais vous faites comme eux, exactement comme eux.
Non, parce que moi, je me garderais bien de vous dire que ça va s'effondrer à la fin 2012, en mars 2014,
oui,
etc.
Mais vous dites que l'effondrement est possible.
C'est tout à fait possible. Pourquoi c'est possible? Parce que la monnaie telle qu'elle est, donc l'euro, n'était qu'un premier pas vers la construction d'une fédération politique. Ça ne veut pas dire un super État, hein, comme on l'entend, nous, Français, parce qu'on entend fédération, on dit « Ah, ça y est, tout va se concentrer à Bruxelles, qui va réglementer nos vies dans les moindres détails. » Non, une fédération, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a d'un côté une monnaie, un pilier monétaire, et de l'autre côté, un pilier économique et politique, c'est-à-dire un gouvernement européen élu au suffrage universel, un parlement de la zone euro qui contrôlerait ce parlement européen, un budget de la zone euro qui investirait dans les dépenses du futur, hein, et qui permettrait aux États aussi de faire face à des chocs, ce qu'on appelle des chocs asymétriques, par exemple, qui touchent l'Espagne mais pas l'Allemagne, et aussi un trésor européen qui pourrait emprunter sur les marchés pour financer ce budget et les constructions du futur. Et tout ça, c'était prévu, c'était dans l'idée des pères fondateurs, mais on ne l'a jamais réalisé. Donc pour l'instant, vous avez, si vous voulez, comme vous savez, comme ces pirates de l'ancien temps qui ont une jambe impeccable et de l'autre côté, c'est une jambe de bois. Et bien, pour l'instant, on marche comme ça avec l'euro.
Alors, on va y revenir. Êtes-vous sûr, Jean Quatremer, puisqu'on parlait de l'idée que l'euro était entré dans les cœurs aujourd'hui, êtes-vous sûr que les Français vivent mieux aujourd'hui avec l'euro? C'est une question qui est toujours débattue.
Mais de toute façon, c'est un peu difficile de refaire l'histoire. Moi, je me méfie toujours. Sans l'euro, ça aurait été une catastrophe. Mais on peut peut-être simplement prendre des points de référence. On est dans un monde aujourd'hui qui n'est plus un monde comme au moment où on a lancé la construction monétaire. C'était dans les années 60, hein, en 1968-1969, où on était 2 milliards d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Aujourd'hui, on est donc avec des puissances et plus seulement émergentes, mais des puissances qui nous font une concurrence directe, comme la Chine, comme l'Inde, sans doute le Brésil, l'Amérique du Sud, etc. Et il est clair que si l'Europe était restée aussi divisée qu'elle était, avec chacun sa petite monnaie, face à ces puissances émergentes, on ne pourrait pas peser dans le jeu mondial. C'est pas le yuan qui est aujourd'hui la deuxième monnaie de réserve du monde, c'est l'euro. Ça nous a permis, ça nous permet encore aujourd'hui de peser dans le monde. Deuxième chose qui est importante, c'est que grâce à l'euro, on a pu d'abord baisser les taux d'intérêt. Je veux dire, on a oublié l'époque où, lorsque vous faisiez un emprunt immobilier, lorsqu'une entreprise empruntait auprès d'une banque, vous aviez des taux à 10, 15, 20%. 1% parfois. Je veux dire, les années 70-80, c'était des taux d'intérêt extrêmement élevés. Aujourd'hui, on emprunte à 1,2% pour acheter un appartement ou une maison. Et les entreprises, même chose.
L'euro a tué l'inflation. En tout cas,
l'inflation
a deux chiffres.
Et les taux d'intérêt. Donc, on n'a plus d'inflation. On a des taux d'intérêt qui sont à zéro. Et ça nous a permis de résister beaucoup au choc de 2007-2008. Imaginez, au moment de la crise financière, vous vous rappelez, avec les subprimes et puis la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Imaginez ce qui serait passé sur les marchés monétaire, si on avait eu d'un côté le Deutsche Mark, de l'autre le franc français, la lire italienne. Les marchés, ils auraient cherché la qualité et ils se seraient réfugiés où? Pas en France, ils ne se seraient pas réfugiés en Italie, ils se seraient réfugiés en Allemagne. Et donc nous, on aurait dévalué et la crise se serait ajoutée à la crise et à la crise. Et donc on aurait sans doute plongé. Aujourd'hui, par exemple, on peut se permettre la crise des gilets jaunes sans aucun problème. Est-ce que l'euro a varié d'un centime? Mais pas d'un centime, parce qu'à Hong Kong, on se fiche royalement de ce qui se passe sur les ronds-points de France.
Le franc aurait dévissé,
évidemment. Moi, je suis un investisseur de Hong Kong, de Riyad ou ailleurs. Je retire mes billes de France dans la seconde en disant « Mais c'est quoi ce pays de dingue ?» Et l'économie qui est bloquée. Ben, vous retirez votre argent et vous le placez où? Ben, chez des gens sérieux,
ça affecte
en Allemagne.
Alors, ce parachèvement de la monnaie européenne, votre livre « Il faut achever l'euro », c'est pour l'essentiel l'histoire détaillée de cette construction monétaire avec les anecdotes, les conflits, les occasions manquées. Vous rappelez notamment comment le gouvernement Jospin renonce à demander un gouvernement économique. C'était une vieille demande française pour compenser l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Les Allemands ne veulent pas, ils concèdent un eurogroupe qui existe encore aujourd'hui. Mais c'est le même débat encore aujourd'hui, Jean-Claude.
Ce qui est fascinant, il faut se repencher, il faut vraiment toujours se replonger dans l'histoire pour comprendre les enjeux actuels. En réalité, tous les débats qu'on a aujourd'hui, ce sont des débats qui existaient il y a 10 ans, qui existaient il y a 20 ans, il y a 30 ans,
oui.
Il y a 40 ans.
30 ans, oui,
ça n'a pas bougé d'un iota. Ouais. Nous, on est responsable aussi grandement de ce qui s'est passé parce que au début, lorsque Helmut Kohl, en 1990, dit « Ok, moi je vous donne mon Deutschmark », parce que c'était un hold-up sur le Deutschmark, hein, la création de l'euro, puisque le Deutschmark dominait
l'Europe largement. Voilà. Oui,
et
oui.
Donc, au moment où Helmut Kohl donc, donne le Deutschmark, il demande aux Français de faire l'union politique. Et c'est la France qui refuse la fédération. Parce que nous, on n'aime pas cette idée de fédération. Donc, on a piqué le Deutschmark, mais on a refusé les instruments démocratiques qui auraient permis, justement, de construire cette fédération.
Bon, aujourd'hui, Jean Quatremer, qu'est-ce qu'on fait pour achever ou parachever l'euro? Vous l'avez dit en partie tout à l'heure, sachant que pour l'Allemagne, tout va bien. Enfin, il n'y a pas de nécessité de réformer, de parachever cette structure telle que...
Alors, pourquoi est-ce que partout, il y a des partis populistes qui émergent? Pourquoi partout, des partis d'extrême droite émergent, qui ne mettent plus en avant la sortie de l'euro ou de la zone euro? Je crois que les gens, profondément, veulent se réapproprier. C'est un cri, si vous voulez, une volonté de se réapproprier le processus de décision. Ils sont attachés à l'euro, mais ils sentent bien que la façon dont l'euro se fait, dont les politiques économiques et budgétaires se font, le contrôle leur échappe. Et de fait, ils ont raison. C'est décidé uniquement par la Commission européenne et par les ministres des Finances qui ne rendent de compte à personne. Ce système-là est amené, à mon avis, à périr ou à dépérir. Donc, c'est pour ça, parachever l'euro, c'est faire une fédération européenne.
Il faut achever l'euro, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'euro. Jean Quatremer, ça vient de paraître chez Calman Lévy. Merci d'être venu nous en parler.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, pourquoi et comment Netanyahou est en train de transformer Israël et de trahir l'idéal de ses pères fondateurs? C'est Jean-Pierre Filiu qui le dit. Il publie Main basse sur Israël.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine. On continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Dans 3 mois, le 9 avril, les Israéliens iront renouveler leur Parlement avec 7 mois d'avance sur le calendrier prévu. Élection anticipée convoquée par le Premier ministre Netanyahou, sans doute pour échapper à une inculpation pour corruption. Ce qui n'entame pas sa popularité d'ailleurs, ses chances d'être reconduit et d'égaler le record de longévité de Ben Gourion, le père fondateur d'Israël, qui a dirigé le pays pendant 13 ans, mais très loin de l'esprit de Ben Gourion et du sionisme démocratique. Bonjour Jean-Pierre Filiu.
Bonjour.
Professeur des universités à Sciences Po Paris, on connaît vos travaux sur le monde arabo-musulman. Vous publiez « Main basse sur Israël » aux éditions La Découverte et vous racontez que c'est un énorme mensonge de Netanyahou qui a inspiré ce livre quand il y a 3 ans, le Premier ministre avait expliqué qu'en 1941, c'est le grand mufti de Jérusalem qui avait suggéré à Hitler d'exterminer les Juifs, qu'il était... ce grand mufti, l'inspirateur de la Shoah.
Oui, effectivement, du point de vue de l'historien comme du citoyen, j'étais profondément traumatisé. Je rappelle que Eli Barnavi, qui a été ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002, avait qualifié cette déclaration Netanyahou de prostitution de la Shoah, je cite. Donc c'est évidemment un mensonge d'État qui va à l'encontre de toute la vérité historique.
Révisionnisme incroyable, mais Netanyahou a récidivé l'été dernier en minimisant le rôle des Polonais. Il a récidivé aussi à l'égard des Hongrois.
Effectivement, on a l'impression très forte que Netanyahou utilise en fait l'histoire de l'Holocauste dans de basses manœuvres politiciennes vis-à-vis de ses alliés populistes européens. Et mes collègues, les historiens de Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, se sont élevés publiquement de manière absolument inédite contre de telles manipulations.
C'est un révisionnisme qui fait écho, selon vous, Jean-Pierre Filiu, à un autre révisionnisme sur l'histoire d'Israël et sur le rôle des travaillistes dans la construction de cette histoire.
Effectivement, il se trouve que cette famille du sionisme, longtemps très minoritaire, s'appelait révisionniste. Elle s'inspire de Zev Jabotinsky, mort en 1940, et elle était dénoncée par Ben Gourion, par tous les pères fondateurs, et peu à peu, elle a pris le pouvoir. 1977, c'est le grand tournant avec l'arrivée du Likoud au pouvoir après pratiquement 30 ans de gouvernement travailliste. Netanyahou va encore plus loin, il reconstruit le récit d'Israël comme si au fond c'était eux, la droite, l'ultra-droite, qui avaient construit l'État et non pas les pères fondateurs travaillistes.
Ce que vous mettez en lumière, c'est à quel point l'histoire personnelle de Netanyahou impacte sa ligne politique, parce que ce Jabotinsky dont vous venez de parler... Il s'en revendique comme l'héritier, c'est le père de la droite israélienne, le chef de file, vous l'avez dit, du sionisme révisionniste. Et il avait comme secrétaire particulier le père de Netanyahou.
Voilà, Benjamin Netanyahou, décédé récemment à 102 ans, qui a profondément influencé son fils. Et il y a donc ce père, et puis il y a le frère aîné, Jonathan Netanyahou, Yoni, comme l'appelle avec affection et respect les Israéliens, qui est un héros de l'État d'Israël, vu qu'il est mort, les armes à la main, en 1976, lors d'une opération audacieuse de sauvetage d'otages sur l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda.
Netanyahou a profondément changé Israël.
C'est clair. Et d'ailleurs, il l'a refondé. Hein. Il y a le fondateur qui est Ben-Gourion et Netanyahou que trop souvent ses adversaires, et on le voit d'ailleurs, le parallèle s'impose avec Trump, ne prennent pas au sérieux, ne comprennent pas la vision stratégique à la fois pour la société et pour l'État. Et donc, on a eu refondation par une loi à valeur constitutionnelle à l'été dernier où le mot « démocratie » est absent. Ce qui est un silence qui devrait quand même interroger les amis d'Israël.
Demain, s'il est réélu, cela peut aller plus loin. Il y a chez lui une tentation illibérale ou autoritaire, Jean-Pierre Filliu.
Alors déjà, comprendre son calcul actuel, il anticipe les élections parce qu'il est sous la menace recommandée par la police de 3 mises en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. Donc s'il est inculpé avant les élections, cela peut compromettre le résultat. S'il l'est après, il se prévaudra d'un vote populaire pour refuser toute démission. Donc c'est vraiment une élection sous contrainte. Et on voit bien qu'il veut en faire un référendum sur sa personne, ce qui est là aussi contraire à l'esprit des institutions israéliennes. C'est la Knesset et ses 120 députés qui sont la source de la souveraineté populaire en Israël et non tel ou tel homme, aussi doué ou moins doué soit-il.
Mais il a face à lui une opposition plus fracturée et plus minoritaire que jamais.
Ce qui est terrible, c'est la grande victoire de Netanyahou. C'est d'abord qu'il a éliminé méthodiquement tout concurrent possible au sein du Likoud. Il sait très bien comment lui a pris le pouvoir au sein du Likoud, donc il a tout fait pour que cela ne se répète pas. Et qu'on a face à lui une classe politique qui est tombée dans ses calculs politiciens et qui en fait accepterait même par avance qu'il remporte les élections et qui se positionne dans la perspective d'une mise en examen après les élections. On espère au contraire que lors de ces élections, un sursaut démocratique, c'est-à-dire qu'on votera pour un programme et non pour telle ou telle personne, tel ou tel calcul de calendrier par rapport à la justice, et que c'est ainsi qu'Israël pourra réellement se prononcer sur son avenir.
Mais Netanyahou a un point fort, c'est qu'il a, aux yeux de ses concitoyens, fait de son pays un pays sûr sur le plan sécuritaire, au prix sans doute d'une aggravation des fractures de la société, et puis il a aggravé le conflit avec les Palestiniens en niant en quelque sorte la dimension humaine de la question. Il n'en a fait qu'un sujet sécuritaire, on peut le résumer comme ça, Jean-Pierre Filliu.
Là aussi, je rejoins sa vision historique qui est profondément pessimiste, qu'il a une vision où la paix n'a pas de place, où seul le rapport de force doit prévaloir. Mais sur la sécurité, je constate que le fait qu'il ait littéralement aligné Donald Trump sur ses propres positions, transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, abrogation de l'accord sur le nucléaire iranien, ne l'a pas empêché d'encaisser tout récemment un choc sécuritaire, qui est le retrait des Américains de Syrie, qui le laisse relativement désarmé, en tout cas dépendant du bon vouloir de Poutine, s'agissant de l'action de l'Iran au profit du régime de Bachar el-Assad.
C'est évidemment une grave défaite qu'il n'a pas vu venir, mais c'est le prix aussi de l'égoïsme et l'isonationnisme de
son
Trump.
Aveuglement idéologique. Ne jamais sous-estimer que Netanyahou, sous ses dehors pragmatiques, un peu fonceurs, est un idéologue. Et c'est ce que j'essaie de reconstituer, de démontrer ce parcours idéologique d'une droite très dure qui l'habite et qui, à bien des égards, l'aveugle.
Jean-Pierre Filliu, main basse sur Israël. Ça vient de paraître aux éditions La Découverte. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Dans un instant, on parle du nouveau Houellebecq avec Antoine Compagnon et Jean Birnbaum.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Voici donc deux grands lecteurs pour nous aider à évaluer le nouveau roman de Michel Houellebecq qui porte le nom d'un anxiolytique mais qui n'annonce rien de déprimant pour son éditeur Flammarion qui en a fait imprimer 320 000, lesquels s'arrachent depuis hier en librairie. Bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Professeur au Collège de France où vous tenez la chaire de littérature moderne et contemporaine et star de l'édition. vous aussi, depuis votre été avec Montaigne, 200 000 exemplaires il y a 5 ans. Face à vous, ou à vos côtés plutôt, le patron du Monde des Livres. Bonjour Jean-Bien de Baume.
Bonjour.
Question simple à vous deux pour commencer. Est-ce que vous avez trouvé de l'intérêt et du plaisir de lecture dans ce Sérotonine, Antoine Compagnon?
De l'intérêt, oui, parce que comme dans
métier.
Ses autres romans, Michel Houellebecq nous parle de notre monde, nous parle de questions qui nous importent à tous, en l'occurrence de l'état de l'agriculture française dans ce livre, puisque bon, il y a d'autres choses, mais il y a ça, et bon, on ne peut pas ne pas s'y intéresser. Du plaisir, peut-être moins, parce que bon, c'est un livre un peu déprimant, comme les
comme
autres...
Comme la plupart des Houellebecq, oui.
Comme les autres livres de Houellebecq. Et puis moi, je suis toujours un peu résistant à sa langue, qui est finalement peu poétique, même s'il est aussi un poète. Et je dirais que je n'y trouve pas un plaisir de langue. Et dans les livres... Il faut que ce plaisir soit présent aussi.
On va reparler de ces qualités littéraires. Jean-Bien de Baume, avez-vous apprécié votre séjour à l'hôtel Mercure de la Place d'Italie à Paris où se réfugie le narrateur de Sérotonine au début du livre?
Pour moi, c'est le luxe absolu, vous savez.
Avec ses chambres fumeurs.
J'avais été très dur avec le précédent livre, Soumission, que je trouvais qui était dur et qui avait justement le titre, il portait bien son titre, c'est-à-dire qu'il essayait de, quelque part, c'était non seulement sur l'islam, sur un fantasme d'une France soumise à l'islam, mais pour moi, le titre Soumission, c'était aussi l'idée qu'il voulait soumettre son lecteur. Il y avait peu de place pour la liberté du lecteur dans ce livre-là. Et je trouve que dans Sérotonine, on retrouve une vraie capacité
puisque vous
de liberté.
Vous citez, je rappelle que vous aviez dénoncé à l'époque un livre qui suscite la révolte et la nausée hein, à propos de Soumission. C'était quand même assez violent, Jean-Bien de Baume.
Un peu dur. Peut-être que je parlerai un peu différemment aujourd'hui, un peu, serait peut-être plus nuancé, mais c'est vrai que j'avais été frappé. C'était même pas seulement le thème et l'idéologie qui était sous-jacente, c'était aussi justement cette espèce de manière de corseter ou d'enfermer le lecteur dans une thèse un peu unique, comme ça, de laisser aucune liberté, ce qui n'est pas du tout le cas de Sérotonine, moi, c'est ça qui est beau, vous voyez, quand on lit un livre, personne prétend avoir la vérité critique ou le jugement sur ce livre-là.
Pour ça que
j'entends Antoine Compagnon qui dit qu'il n'a pas pris beaucoup de plaisir. Moi, j'ai pris un plaisir immense à lire ce livre, j'ai énormément ri. Vous savez, déjà un livre qui vous fait rire intelligemment, c'est énorme. J'ai eu un fou rire comme j'en ai pas eu depuis longtemps, et ma femme m'a dit: mais qu'est-ce que t'as? Et j'ai dit: je lis Houellebecq. Et en fait, je lis Houellebecq et je vois qu'il nous restitue à nouveau une forme de liberté, parce que à travers, effectivement, il y a la question des agriculteurs, la question du peuple en colère, la question aussi de la déchéance, de l'individualité, d'un homme qui, une fois de plus, est sur le chemin de la déchéance, c'est le narrateur de ce livre. Et bien quand même, il laisse percer, comme rarement auparavant, la possibilité d'une joie, la possibilité d'un bonheur. Et tout ça, il le fait avec un humour fou. Il y a un auteur que Antoine Compagnon connaît bien, sur lequel il a beaucoup écrit, qui est Baudelaire, qui compte beaucoup aussi pour Houellebecq. Baudelaire disait que il disait la différence entre le comique ordinaire et le comique absolu. Le comique absolu, disait-il, est l'apanage des génies artistiques, des génies de l'art. Et bien de ce point de vue, je pense que Houellebecq, avec ce livre, prouve qu'il appartient un peu à cette catégorie.
Antoine Compagnon, vous n'avez pas eu les larmes aux yeux et Houellebecq ne vous a pas fait hurler de rire?
Il est vrai que l'on rit en lisant ce livre. Il y a beaucoup de choses drôles, mais je ne dirais pas que c'est du comique absolu à la Baudelaire. parce que je trouve que c'est souvent un rire un peu adolescent. Houellebecq me ramène à mon adolescence des classes préparatoires où on faisait des
mauvaises scatologiques, c'est ça ?
Des mauvaises vannes scatologiques, des plaisanteries misogynes qui sont très présentes dans le livre. Et ce comique un peu, je dirais, un peu de beauf. Alors on est capable encore d'en rire aujourd'hui, mais tout de même, ça nous ramène à des moments de l'adolescence avec lesquels on préfère souvent être éloigné.
Vous avez été plus lapidaire encore dans cet espace que Jean-Bien de Baume, d'ailleurs, vous a offert dans le monde des livres, en parlant du degré zéro de la littérature, Antoine Compagnon.
Alors, c'est ambigu. N'oublions pas que le degré zéro de l'écriture, chez Roland Barthes, c'est le plus grand des éloges, puisque ce degré de zéro de l'écriture, il le trouvait chez Albert Camus. Alors, aujourd'hui, il me semble que c'est un peu ce qu'on trouve chez Houellebecq, hein, mais je crois que c'est chez lui tout à fait délibéré. Hein. Il a une langue comme je dis, plate et instrumentale, mais c'est ce qu'il veut, il sait très bien ce qu'il fait. Et puis, Teresa Crémisi, François Samuelson, son agent, son directeur, ben, ils savent très bien ce que c'est avec cette langue-là qu'il peut toucher un public important. Et bon, dans ce point de vue, il a absolument raison.
Parlons maintenant du fond, vous l'avez un peu évoqué, vous, Jean Birnbaum, dans votre papier du Monde des livres, vous parliez d'un retour à la littérature. Est-ce que vraiment vous trouvez que Houellebecq a quitté le champ politique et celui de l'observation de la société? On a coutume de souligner l'aspect visionnaire de ces romans, de ces observations. Est-ce qu'on est encore dans ce champ-là avec Sérotonine?
Mais quand je parlais de retour à la littérature, c'est qu'effectivement, c'était une allusion à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avec Soumission, à l'instant, Antoine Compagnon parlait de Roland Barthes. Et Roland Barthes disait que vivre selon la littérature, c'est vivre selon la nuance. Et donc que la littérature vous permet de surmonter les visions manichéennes en tout blanc, tout noir, l'ami, l'ennemi, etc. Dans Soumission, il y avait vraiment quelque chose qui voulait soumettre aussi la critique. La critique se mettait à genoux. Et Houellebecq disait, toi, critique, tu feras comme si je ne disais pas ce que je dis au moment où je le dis. Et donc il y avait un truc incroyable où il soumettait les critiques en disant « Vous ferez semblant de ne pas entendre ce que je suis en train de dire alors que je le dis partout, y compris dans des entretiens, partout, etc., dans Valeurs Actuelles ou ailleurs. » Et là, ce qui est très fort, c'est que Houellebecq se tait. D'ailleurs, pour ce nouveau livre, il se tait. Il n'a pas pris la parole, il n'a pas fait de grands entretiens.
Et il a raison, à votre avis.
Je pense qu'il a raison parce qu'il laisse son roman se déployer comme roman et son roman lui-même se déploie comme roman parce que justement, il renoue avec quelque chose dont Barthes parlait, c'est-à-dire avec ce sens de la nuance. Parce que par exemple, ce rire que Antoine Compagnon voulait réduire à des blagues de potage pour adolescents un peu misogynes, etc. Moi, je ne l'entends pas du tout comme ça. C'est un rire qui est très intelligent, très travaillé, qui est souvent du rire de très voltairien, c'est-à-dire de l'ironie sur le narrateur, sur l'auteur. Il est à double, triple, à quadruple fond. Et donc, ce n'est pas juste des blagues comme ça de beauf à la Billard. C'est un humour incroyablement rayonnant, à triple ou quadruple fond, qui vous permet en permanence de vous redéployer vous-même, de vous recadrer vous-même et surtout qui vous empêche de sombrer dans une idée ou dans une idéologie, qui empêche le texte lui-même de se refermer sur une idée ou même sur une forme. Il y a mille formes, il y a le conte philosophique, l'enquête, la parole pamphlétaire, la colère, la drôlerie, la parodie, etc. Il joue avec tous les styles, tous les modes narratifs et en permanence en jouant, donc il empêche en permanence aussi le lecteur d'être dupe de son texte et donc il renoue de ce point de vue effectivement avec ce qu'il y a de meilleur dans la littérature, c'est-à-dire quelque chose qui vise à une liberté. Il y a un texte on cite plein d'auteurs ce matin, mais on est là pour ça, de Jean Paul Sartre dans Qu'est-ce que la littérature, de façon un peu naïve et un peu bébête aussi, mais en même temps très belle, il dit la littérature ne s'adresse pas à des esclaves, elle vise une liberté. Et bien Sérotonine, à nouveau, nous redonne de la liberté, elle vise notre liberté et nous fait jouir, nous fait rire en nous rendant plus libres, et rien que pour ça il faut lui en être très reconnaissant.
À quoi sert la littérature? C'était le titre de votre leçon inaugurale au Collège de France, Antoine Compagnon. À quoi sert Michel Houellebecq?
Michel Houellebecq sert en effet à nous rendre sensibles à un certain nombre de grands problèmes contemporains. Il est de son temps. On me demande souvent s'il est anti-moderne, mais je dis non, il est moderne parce qu'il nous parle de notre temps.
Alors si c'est vrai, il est très utile, oui.
Peu en parle autant.
Oui.
Oui, il faut le lire, mais j'ai du mal à y voir tous ces degrés d'humour et de satire que découvre mon voisin. On est obligé, en effet, de réagir en ne prenant pas au premier degré, par exemple, tout ce qui est dit des femmes. Donc on est obligé, effectivement, d'opérer une certaine distance, de faire
et
comme s'il y avait...
Des hommes, et leur puissance, et leur
oui,
femme.
Oui, mais enfin, il y a un côté beaucoup plus polémique, voire scandaleux, sur les femmes. D'ailleurs, la polémique n'a pas commencé. Il a réussi à se débarrasser de la polémique qui avait accompagné la sortie de Soumission il y a 4 ans. Je ne parle même pas du télescopage avec l'attentat contre Charlie Hebdo le même jour. Mais enfin, il faut se souvenir quand même de l'accompagnement scandaleux et polémique de Soumission à ce moment-là, à cause de la prophétie, en quelque sorte, d'une France présidée par un islamiste, même modéré, comme il l'imaginait à ce moment-là, Antoine Compagnon.
Bah, aujourd'hui, il tombe tout de même dans une certaine actualité, puisqu'il nous raconte le récit d'une sorte de jacquerie, d'une protestation peu organisée, dont on a eu des exemples récents.
Sa misogynie, elle ne vous a pas choqué Jean Birnbaum ?
Non, moi, j'ai été élevé dans une famille de stricte obédience féministe. Je suis très sensible à toutes ces choses-là. Là, dans ce livre, tout le monde en plein la tête. La figure de masculine n'est pas beaucoup plus reluisante dans le livre. Il y a vraiment 1000 degrés. Et je crois que justement, tout est organisé dans ce livre pour restituer une liberté à l'auteur et restituer de la liberté aussi au texte et montrer que rien ne peut coaguler, être nécrosé dans ce texte. La question de la sexualité est omniprésente, comme souvent chez lui. Mais elle dit à nouveau, là, on n'est pas dans les gilets jaunes, on n'est pas dans soumission, on n'est pas dans l'islamisme, on est dans autre chose. On est dans l'idée quand même qu'aujourd'hui, effectivement, la sexualité, on en parle beaucoup, il y a eu toutes les histoires MeToo, etc. Mais Houellebecq nous montre que quelque chose, il nous montre cette chose toute bête mais qui est souvent oubliée, quelque chose dans la sexualité nous échappe, nous ne maîtrisons pas tout. Au moment où nous faisons un geste, nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes. Eh bien, je pense que juste rien de ce côté-là, Houellebecq est à nouveau en pleine actualité dans notre refoulement de la sexualité et de ce qui nous échappe à l'intérieur de tout ça.
Jean Birnbaum, enthousiaste, Antoine Compagnon, plus réservé. Merci à tous les deux d'être venus ce matin en direct au micro d'Europe 1 parler de ce sérotonine qui vient de paraître chez Flammarion, signé Michel Houellebecq. Merci à vous.
Merci. Europe 1.